affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous connaissons tous la légende de Romulus et Remus, mais la comprenons-nous ? Nous connaissons les débuts plaisants de jumeaux voués à la mort par un monarque illégitime, mais finalement recueillis par une louve, ce qui leur permettra par la suite de rétablir la justice en se vengeant. Nous savons aussi que l'un des deux jumeaux, Romulus, deviendra le fondateur de Rome. En revanche, nous préférons passer plus rapidement sur l'épisode sanglant du meurtre de Romulus par Romulus, qui nous choque par son caractère barbare, inutilement macabre et violent. Mais pourquoi donc les Romains avaient-ils choisi pour fondateur un fratricide ? Et si, de la sorte, nous passions précisément à côté du sens profond de la légende ? Et si, loin d'avoir été inutile, la mise à mort de Romulus était nécessaire ? Et si loin de représenter un acte barbare et sauvage, elle signait au contraire l'entrée dans la civilisation. Telle est en tout cas la thèse défendue par notre invité. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Dominique Briquel. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé tout récemment aux éditions Les Belles Lettres, Romulus, jumeaux et roi, réalité d'une légende, qui reprend des dizaines d'années de travaux consacrés à ce sujet. Je précise que vous êtes directeur émérite à l'école pratique, directeur d'études émérite à l'école des hautes pratiques des hautes études, et que vous êtes spécialiste des Étrusques et de la Rome ancienne, et que donc depuis déjà 1976, date de la parution du premier article sur ce sujet, vous êtes intéressé à ce mythe que vous reprenez en utilisant la méthode de votre illustre confrère Georges Dumézil, mais en y apportant nombre d'éléments nouveaux. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire élucider le scandale que représente ce fratricide, faut-il, en guise d'introduction, rappeler très factuellement quelle est cette légende de Romulus et Remus, sa narration, du moins dans l'une de ses versions, car vous nous apprenez en introduction qu'elles sont innombrables.
Oui, il y a eu beaucoup de versions, mais au fond, on peut dire qu'il y avait un récit canonique sur lequel les Romains, au moins à l'époque classique, étaient à peu près d'accord, et que les auteurs racontaient de la même manière. Alors, on trouve ce récit chez les auteurs principaux qui nous parlent des origines de Rome, c'est-à-dire bien sûr Tite Live, le premier livre de Tite Live, mais aussi son contemporain, le grec Denis d'Halicarnasse. Alors Denis d'Halicarnasse, qui écrivait en grec l'histoire de Rome, qui a traîné une réputation assez médiocre, disons. Il était considéré comme un auteur verbeux, il n'en finit pas. Et effectivement, là où le Tite Live expédie l'histoire de Romulus en quelques chapitres, lui est beaucoup plus long. Et c'est à cheval sur son livre 1 et sur son livre 2. Mais le résultat, qui nous donne des tas d'éléments, y compris des éléments dont Tite Live ne parle pas. Alors, il y a aussi un troisième auteur dont il faut parler, qui est Plutarque. Plutarque qui, dans ses vies parallèles, a raconté l'histoire de Romulus. Et bien évidemment, avec le système des vies parallèles, il y avait un grec d'un côté et un romain de l'autre, et le pendant de Romulus était bien évidemment le fondateur d'Athènes, ou celui qui avait procédé à la naissance d'Athènes en tant que ville par cynicisme, qui était Thésée.
Pouvez-vous nous reprendre, pour ceux qui l'auraient oublié, le déroulé du mythe ?
Alors, l'histoire ne commence pas à Rome, puisque Rome n'existait pas encore à cette époque-là, mais elle commence dans les monts Albains, ce massif montagneux d'origine volcanique, qu'on voit très bien d'ailleurs depuis Rome, qui est dans le voisinage, et commence dans la ville d'Albe. Albe, qui était une ville dont les origines étaient beaucoup plus lointaines, il y avait une histoire compliquée où le Troyen aîné avait d'abord débarqué près de la côte à Lavinium, puis ensuite, au niveau de la génération suivante, les habitants de Lavinium étaient partis fonder Albe. Bon, cela avait duré plusieurs siècles et il y avait une dynastie qui descendait du Troyen aîné qui régnait sur le trône d'Albe. Alors, cette dynastie a suivi son cours, les rois se sont succédés, et jusqu'au moment qui nous intéresse, puisque ça va être le moment de la naissance de Romulus. Alors, cette naissance, évidemment, ne se passe pas d'une manière très classique et très normale. Bon, pour fonder une ville aussi importante que Rome, bien entendu, il faut qu'il y ait une divinité qui s'en mêle. Et Romulus et en même temps son frère jumeau Rémus, ces deux frères donc naissent du dieu Mars, du moins dans la version classique. La version classique leur donne comme père le dieu de la guerre, Mars, ce qui est tout à fait, au fond, attendu pour Rome qui était la
cité guerrière.
Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe? Il y a différentes versions. Bon, toujours est-il que Mars rencontre la fille du roi, ou plutôt du roi détrôné, je vais revenir là-dessus, du roi détrôné d'Albe, qui s'appelait Numitor. Bon, et cette fille s'appelle Rhea Silvia, quelquefois on donne le nom d'Ilia par référence à Ilion, à la légende troyenne, mais il s'agit de la même personne. Alors, revenons un peu en arrière, pourquoi ce roi Numitor a-t-il été détrôné? Parce que déjà au niveau de cette génération, ce qui se reproduira avec Romulus et Rémus, il y a, si on veut, la thématique des frères ennemis, deux frères qui s'entendent mal. Parce que l'aîné était Numitor et il avait un frère qui s'appelait Amulius. Par droit d'aînesse, d'une manière tout à fait normale, Numitor devait monter sur le trône, mais évidemment, Amulius ne l'entend pas de cette oreille et détrône son frère. Alors, bizarrement, peut-être, à nos yeux, il ne l'a pas tué, alors qu'il avait tué le fils de Numitor pour éviter que...
Une nouvelle dynastie.
Qui est un danger. Il n'avait pas tué sa fille, donc cette Rhea Silvia, mais il s'était contenté, si on peut dire, de l'avouer au célibat en la faisant nommer comme Vestale, ses prêtresses qui étaient, au moins pour un temps, vouées au célibat. Donc, il pensait qu'il n'y aurait plus de danger d'une perpétuation de la dynastie du côté de son frère et que son pouvoir serait totalement assuré. Oui. Alors, bien évidemment, les choses se sont passées différemment et c'est là que le dieu Mars est intervenu puisqu'il a rencontré la jeune fille et ce qui devait arriver s'est produit. Elle s'est retrouvée enceinte et a accouché des deux jumeaux, des deux frères, Romulus et Rémus. Bien sûr, fureur d'Amulius, voyant son pouvoir menacé par la naissance de jeunes enfants. Alors, ce qui est typique des Romains, finalement, ils ne se préoccupent pas tellement du tenir de la mère. Souvent, ils n'en parlent même pas. Mais ce qui est important, bien sûr, pour eux, c'est le devenir de la progéniture mâle de ces garçons. Alors, la légende est bien connue. Ils sont mis dans une corbeille et confiés à un serviteur qui les jette dans l'eau du Tibre. Ou plus exactement, comme le Tibre était en crue, il n'arrive pas à les mettre vraiment dans le courant, ils se retrouvent sur le bord et, bien sûr, le résultat, qu'ils ne seront pas noyés. Donc, salvation miraculeuse des enfants des eaux du Tibre. Et autre miracle, alors beaucoup plus connu, et qu'on voit encore sur les armoiries de la ville de Rome actuellement, il y a la fameuse louve qui vient tendre ses mamelles aux petits. Donc, elle les nourrit de son lait. Bien sûr, ça ne durera pas indéfiniment comme cela. Un berger qu'ils appellent Faustulus, attiré par ce qui se passe, approche et il se rend compte du miracle, puisque miracle il y a, il va recueillir les enfants. Il les confie à sa femme, Acca Larentia, et ils seront élevés dans ce milieu de bergers jusqu'à, disons, à l'âge adulte. Alors, ils grandissent dans ce milieu des bergers. Les bergers étaient des marginaux par rapport à la société à l'époque. garder les troupeaux, bien sûr, mais se livrer, le cas échéant, à des brigandages, une situation pas très nette par rapport aux règles de fonctionnement normal de la société, Romulus et Rémus, les deux frères, deviennent des personnages très importants dans ce groupe des bergers et deviennent leur chef. Alors, bien sûr, ils ne finiront pas leur carrière comme bergers. Ce qui va se passer est que, justement, ils étaient accusés de faire des déprédations et de s'en prendre aux troupeaux des gens de la ville, et en particulier aux troupeaux d'Amulius et de Numitor. Bon, le résultat est que ceux qui gardaient les troupeaux de la ville d'Albe, disons, essayent de se débarrasser de ces intrus, de ces jeuneurs. Ils tendent un guet-apens dans lequel les deux frères tombent, ou au moins risquent de tomber. Parce que là, on commence à voir la différenciation. Rémus, celui qui ne sera pas le fondateur, est capturé et amené prisonnier dans la ville d'Albe, tandis que son frère arrive à échapper. Alors, épisode suivant, bon, bien sûr, les choses ne vont pas en rester là. Romulus prend la tête du groupe des bergers et va monter une attaque contre Albe. De son côté, Rémus, en fait, s'en était pris surtout au troupeau de Numitor, donc disons le bon frère, et Amulius avait remis Rémus à celui qui en réalité était son grand-père. Donc il y a une scène de reconnaissance tout à fait classique. Numitor reconnaît Rémus et il y a une sorte de double mouvement contre Amulius pour rétablir Numitor sur le trône. Bon, Romulus qui arrive avec ses bergers de l'extérieur et Rémus qui, à l'intérieur, monte une attaque contre le palais royal. Donc, les choses se passent comme elles doivent se passer. Le vilain Amulius est tué et Numitor remonte sur le trône. Alors, là, les choses se passent jusque-là à Albe. Bon, mais le destin de Romulus, bien sûr, n'est pas de rester à Albe. Il s'agit pour lui de fonder le Rome. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut dire que le nom de Romulus veut sans doute dire simplement Romain. C'est une sorte de nom ethnique, le Romain. Donc, les deux frères, puisqu'à ce moment-là, ils sont encore deux, décident de ne pas rester à Albe et d'aller fonder une ville. Ils retournent précisément à l'endroit où la louve les avait allaités. Et je ne l'ai pas précisé, cet endroit, c'était sur le site de Rome. C'était sur le flanc du Palatin, la grotte du Lupercal, qui depuis était devenue un lieu évidemment tout à fait sacré, tout à fait important pour les Romains. Donc, ils décident de retourner là, mais le problème se pose, ils sont deux, quel va être le chef, quel va être le fondateur, et question très importante à leurs yeux, lequel des deux donnera son nom à la cité. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire, ils décident, ce qui est normal, de s'en remettre aux dieux. Comment est-ce qu'on consulte les dieux? C'est par le biais de l'observation des oiseaux, des auspices, de la prise d'auspices, et chacun des deux frères se poste un endroit d'où il va observer les oiseaux dans le ciel pour voir quel signe les dieux, et derrière surtout le dieu suprême Jupiter, va leur donner pour les départager. Alors les choses se passent d'une manière un peu bizarre, parce que celui qui voit le premier un signe, c'est non pas Romulus qui va fonder Rome, mais son frère Rémus. Et il voit six vautours, oiseaux classiques d'observation augurale. Donc tout content, il estime que c'est lui qui l'a emporté sur son frère, mais les choses se passent différemment, puisque au moment où il croit triompher, son frère voit le double d'oiseaux, 12 vautours, donc c'est lui qui l'emporte. Parce qu'il faut peut-être rappeler que ça n'est pas simplement une question de nombre d'oiseaux, mais qu'en bonne procédure augurale romaine, un signe qui survient après un signe précédent l'annule et c'est lui qui l'emporte. Donc, incontestablement, celui qui l'emportait, c'est-à-dire celui qui a été choisi par les dieux, c'est Romulus. Donc Romulus décide de fonder la ville de Rome et il le fait par le rite. Alors en latin, on disait sulcus primigenius, le sillon primordial, c'est-à-dire un rite d'origine étrusque qui consistait à atteler un arrière à un couple de bovins, une vache et un bœuf, et de leur faire tracer ce qui serait la limite de la cité. Bon, les Latins avaient un mot particulier, pomerium, pour dire cela. Et c'était quelque chose qui, en réalité, était religieusement très important, parce que même si la ville n'existait pas encore à ce moment-là, on délimitait ainsi une sorte d'espace particulier, d'espace spécifique sur la surface du monde, qui était dans un rapport tout à fait spécial et positif avec les dieux. Il y avait une sorte de bénédiction qui s'appliquait à celui-là. C'est ce qu'on appelait l'inauguration ou l'auguration.
Et c'est là que Rémus commet l'irréparable.
Alors, évidemment, Rémus est assez mécontent et, se moquant de son frère, saute par-dessus ce fossé à peine creusé. Évidemment, ça n'est pas très difficile à franchir. Et il commet, comme vous dites, l'irréparable, puisqu'il a attenté à ce caractère sacré de la limite du pomerium. Donc, aussitôt, Romulus, dans la version classique, mais il y aura d'autres variantes, dans la version classique, Romulus, furieux, se jette sur lui et le tue. Donc c'est le fameux fratricide, le meurtre du frère par son frère, qui était quelque chose de très grave aux yeux des Romains, et qui vraiment est un trait tout à fait étonnant de la légende du fondateur de Rome.
Et parce que vous nous apprenez, parce que naïvement, je pensais être choqué par ce fratricide pour des raisons de sensiblerie contemporaine, mais que dans un cadre antique quand même plus sanglant que la vie actuelle, je n'avais pas perçu que ça choquait énormément aussi. C'est-à-dire que pour les historiens romains de l'Antiquité, c'est aussi un scandale. Ils ont du mal à accepter.
Oui, bien sûr. Alors, vous avez parfaitement raison. La sensibilité à la vie humaine n'était pas du tout la nôtre. Et puis, certains meurtres, si on peut employer ce terme, paraissent tout à fait légitimes. Bon, le fait que les deux jumeaux, Romulus seul, il y a différentes variantes, aient tué le vilain roi Amulius pour rétablir leur grand-père Numitor, au contraire, c'est quelque chose de très bien. Mais s'agissant de Rébus, c'est autre chose. Et sans doute, le fait qu'il s'agit du meurtre du frère, c'était quelque chose qui n'était pas exactement du même ordre. Il faut bien dire que la raison du meurtre nous semble assez dérisoire. Bon, il l'a fait simplement pour se moquer, une plaisanterie ne valait sans doute pas un tel traitement.
Et finalement, ce que vous allez nous expliquer, c'est que c'est tout le contraire. Il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais d'une façon de bousculer un ordre beaucoup plus profond. Alors je reviens, avant que nous en arrivions là, sur les différentes façons qu'il y a d'interpréter un tel mythe. Vous apportez un certain nombre d'éclairages sur la méthode. Alors comment se saisit-on d'une telle matière ?
Alors, au fond, j'ai rappelé le récit qu'on trouve chez Tite-Live de Ninon Halicarnasse ou Plutarque. Bon, au fond, on peut simplement raconter les faits. Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'on raconte ça ? Le récit, vous avez mis le doigt tout de suite sur la question du fratricide, il y a des traits tout à fait étonnants, tout à fait choquants et qui choquaient les Romains eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'eux déjà n'avaient sans doute pas les clés pour essayer, je ne dis pas de comprendre, mais au moins d'appréhender le pourquoi d'un tel récit. Alors, je veux peut-être préciser que pour nous, c'est de la légende. Eux, c'était de l'histoire. Et ils croyaient dur comme fer que Romulus avait fondé Rome, que Rome avait été fondée, alors on discutait sur la date, mais grosso modo, on s'était mis d'accord sur 753 avant Jésus-Christ. Alors je ne veux pas ici aborder la question très difficile des aspects archéologiques. Et effectivement, il y a dû se passer quelque chose sur le site de Rome vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais cela étant, on ne peut pas dire que, comme le raconte le récit, tout d'un coup, a surgi une ville là où il n'y avait rien du tout.
Alors ça, c'est la façon, j'allais dire, traditionnelle d'aborder ce type de légende, c'est d'essayer de voir si ça correspond à des véracités, des choses qui se vérifient en archéologie, oui. S'il y a une véracité historique, si ça nous éclaire sur la fondation réelle de telle ou telle cité. Votre méthode est tout à fait différente, elle consiste à s'emparer du récit lui-même, d'examiner sa structure, et par une méthode dite comparative, d'essayer d'en percevoir le sens profond interne même à sa structure. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Au fond, ce que j'ai essayé de faire, bon, je suis loin d'être le premier, c'est d'analyser la légende en tant que légende et justement voir comment on peut essayer d'en dégager le sens et que, comme vous le dites, la méthode comparative est quelque chose de tout à fait essentiel et à mes yeux efficace pour entrer dans l'interprétation de ce type de légende. Parce que si on prend le détail de la légende, ben on reconnaît toutes sortes de thèmes qui sont connus pour Rome, mais qui existent aussi dans d'autres secteurs. Alors vous avez fait allusion à Georges Dumézil, lui a travaillé dans le monde indo-européen, mais éventuellement il y a des choses qui vont bien au-delà.
Oui, la même méthode peut être appliquée en élargissant le champ d'investigation, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ce que vous faites d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple tout à fait simple. Bon, à une époque, on utilisait le terme de mythologie universelle. Et c'est vrai qu'il y a certains thèmes légendaires qui se retrouvent, on peut dire, sur toute la surface du globe. Pour en prendre un...
Les jumeaux, par exemple.
C'est ça. Alors, justement, la question des jumeaux, ben, les jumeaux, ça existe partout. Pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la légende romaine, il y a des divinités jumelles dans le culte du vaudou. Évidemment, il n'y a aucun rapport avec ce qu'on racontait à Rome. Donc, au fond, ça se comprend très bien, parce que vous avez l'idée simple qu'un homme, au sens masculin, est capable de procréer un enfant et un seul. Si vous avez deux enfants qui naissent, c'est quelque chose de bizarre, et l'explication dans une mentalité qu'on pourrait qualifier de primitive en mettant tous les guillemets qu'on veut, l'explication c'est nécessairement qu'il y a l'intervention d'une divinité. Et nécessairement, un dieu a dû se mêler de la chose, et c'est un signe de l'intervention du surnaturel. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre dans vraiment toutes les civilisations, on peut dire.
Oui, alors ça nous éclaire, mais qu'à moitié. Donc du coup, l'idée, c'est de réduire le spectre petit à petit. C'est-à-dire, on constate les jumeaux, oui. Il y en a dans l'ensemble des traditions humaines. Elles signifient quelque chose du rapport au divin ou de l'angoisse que crée la rupture de l'ordre dit naturel ou ce qu'on en percevait à l'époque. Mais en l'espèce ici, ce sont des jumeaux plus spécifiques.
Oui, alors justement, je peux reprendre cette question des jumeaux parce qu'à une certaine époque, on avait mis le doigt sur une thématique particulière déjà de la gémilité, mais qui est intéressante et qu'on rencontre en particulier en Grèce. Et vous connaissez les jumeaux grecs, les Dioscures, Castor et Pollux. Et on avait baptisé, disons, cette conception de la gémilité comme étant le Dioscurisme, du nom des Dioscures. Et justement, dans la ligne de cette idée qu'un dieu devait intervenir, on avait élaboré l'idée, peut-être un peu bizarre à nos yeux, que les deux jumeaux n'étaient pas de même nature, qu'il y en avait un qui était fils de Dieu et l'autre fils d'un homme. Alors, avec ces histoires bizarres, justement, qu'on a pour les Dioscures, ou qu'on a aussi pour Héraclès par rapport à Iphiclès, que, je ne rentre pas dans les détails qui peuvent être un peu scabreux, mais que la même nuit, la mère humaine avait eu une union sexuelle avec un dieu, et une union sexuelle avec son mari, avec un homme normal. Le résultat était que un des deux jumeaux était d'essence divine. On le voit très bien dans le cas des Dioscures, puisque Pollux est divin et son frère Castor est simplement humain. On retrouve un peu une idée analogue dans l'histoire d'Héraclès et d'Iphiclès, autre jumeau, parce qu'Héraclès, évidemment, sera le héros. Alors, il sera divinisé seulement après, mais disons, on voit bien que c'est un être supérieur, alors qu'il est soumis à son frère Iphiclès, qui est tout à fait phallos. Et alors, on avait utilisé, Dumézil l'avait repris d'ailleurs, cette thématique pour rendre compte de ce détail évidemment central de la légende romaine, parce que là nous sommes arrêtés à la mort de Rémus, mais après Rémus disparaît et Romulus fonde sa ville, devient le roi, etc. Donc Rémus, et rapidement il est éliminé. Donc différence entre les deux frères. En réalité, c'est plus complexe, et je ne crois pas que le mode d'explication par le diosurisme soit opératoire, dans la vision tout simplement où tous les deux sont fils d'un dieu. Alors, Romulus et Rémus, dans les légendes classiques, sont fils du dieu de la guerre Mars. Il y a une version plus compliquée où ils naissent d'un dieu masculin du feu. Mais même dans ce cas-là, c'est le même père qui intervient et c'est toujours un père divin. Donc, ce type d'explication n'est pas aussi pertinent qu'on avait pu le croire.
Oui, ils sont tous les deux d'essence divine. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'au fil du récit, en réalité, c'est un récit de différenciation.
Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'au début, quand ils sont procréés et quand ils naissent de Rhea Silvia, ensuite quand ils sont mis dans leur corbeille et jetés au tigre, quand ils sont nourris par la louve et recueillis par le berger Faustulus, il n'y a aucune différence entre les deux. Et on voit justement ce thème de la différenciation se faire jour. Alors, j'ai fait allusion déjà au fait qu'au moment, on peut dire du moment de sortie de leur vie de berger, lorsqu'ils vont rétablir leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe et châtier le vilain Mulius qui lui avait volé sa place, à ce moment-là, on voit très bien que celui qui mène le jeu est Romulus, alors que son frère Rémus est arrivé comme prisonnier, capturé par les bergers albains. C'est comme ça qu'il était rentré dans la ville. Donc on voit très bien la différenciation se faire. Et ce qui est significatif, c'est que même à ce moment-là, on est avant la fondation de Rome et avant le choix opéré par la prise d'auspice, et donc voulu par Jupiter, le choix qui est un seul fondateur, Romulus, et que Rémus soit éliminé. Mais on voit très bien que dans cet épisode de capture de Rémus par les bergers, on voit très bien que Rémus va arriver du monde sauvage où il était avec les bergers dans le monde de la cité qui est Albe, il arrive comme prisonnier, il arrive comme vaincu. Alors qu'au contraire, son frère Romulus va y entrer à la tête de ses bergers et comme un chef militaire, et c'est lui qui joue le rôle essentiel. Donc on voit très bien que la différenciation joue déjà à plein à ce moment-là et joue par rapport à ce qui sera la suite de l'histoire, puisque Rémus semble inférieur par rapport au monde des cités. Et Romulus, au contraire, c'est lui qui a le rôle moteur, le rôle important à ce moment-là.
Et un épisode encore plus explicite, c'est celui du festin, un épisode mi-culinaire, mi-sacré, dans lequel Rémus et Romulus n'ont absolument pas la même attitude. Pouvez-vous nous raconter cet épisode, car je pense qu'il éclaire tout à fait la différence des destins.
Oui, alors justement, c'est un épisode tout à fait important, et dont je n'ai pas parlé, mais au fond, il est très mal connu. Parce que le seul auteur qui nous le raconte d'une manière explicite, ce n'est pas ces historiens dont je vous ai parlé, on ne le trouvera pas dans les grands récits classiques, mais c'est Ovide, c'est le poète Ovide dans les Fastes. Et c'est un épisode qui se passe justement au moment de cette vie au sein du groupe des bergers, donc disons de cette vie dans le monde extra-urbain, le monde sauvage, un monde marqué par la primitivité. Et c'est un épisode tout à fait étrange parce que par rapport à ce qui se passera par la suite, bien sûr, c'est Romulus qui va l'emporter, Romulus qui apparaît comme vainqueur par rapport à son frère, et là c'est l'inverse. Dans cet épisode un peu bizarre, Rémus est explicitement qualifié de victor, de vainqueur, parle le poète. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, j'ai fait allusion au fait que pendant cette vie de berger, bon, il y avait des chamailleries avec soit les bergers des villes, soit d'autres brigands. Et au moment où les frères étaient en train de préparer un sacrifice à l'égard du dieu Faunus, le dieu Faunus qui est justement le dieu du monde sauvage et qui
préside.
Oui, c'est ça. Oui. Avec ses faunes, donc ça correspond tout à fait à ce moment de la vie des deux frères. Le sacrifice est interrompu parce que quelqu'un vient avertir Romulus et Rémus que des brigands sont en train de voler leur troupeau. Et au lieu de courir de concert à la poursuite des brigands, essayer de récupérer leur troupeau, les deux frères se séparent, chacun avec un groupe de leurs compagnons. Et celui qui arrive effectivement à rattraper les brigands, à récupérer les animaux, ça n'est pas Romulus, c'est Rémus. Et alors, pendant ce temps-là, son frère est toujours en train de courir, évidemment, sans succès. Or, là, il va se passer quelque chose de tout à fait caractéristique d'un point de vue romain. Parce que les frères étaient en train de préparer le sacrifice à l'égard du dieu Faunus. Et ils étaient en train, on peut le dire d'une manière assez triviale, de préparer des brochettes pour le dieu, c'est-à-dire des bouts de viande qui étaient en train de griller sur le feu. Puisque, je rappelle que dans les rites sacrificiels, il y avait la part des dieux, la part des hommes, et il y avait une part de la viande, les parties les plus importantes, qui étaient réservées aux dieux. Justement, c'était des parties particulières, les extas, des entrailles qui étaient en train de cuire. Normalement, l'homme n'avait pas le droit de le manger. Rémus revient vainqueur, et très fier de sa victoire, mais en même temps, il a faim. Donc, il se jette sur les brochettes qui sont en train d'être préparées pour le dieu, et il les mange. Donc, d'un point de vue romain, c'est un acte extrêmement...
Un sacrilège.
Oui, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Et Ovide dit, d'ailleurs d'une manière un peu mystérieuse, que Romulus s'en aperçoit et rit. Pourquoi est-ce qu'il rit ? Parce qu'il a parfaitement compris que, bien sûr, son frère avait gagné, avait été vainqueur par lui, mais qu'il avait gâché sa victoire. Parce qu'il avait commis cet acte sacrilège qui... le rendait évidemment tout à fait impropre à une grande action par la suite. Donc, dans cet épisode, il y a à la fois, si on veut, un triomphe de Rémus, mais un triomphe de Rémus dont il faut bien voir qu'il se situe dans cette vie marginale, dans cette vie dans le monde sauvage, dans cet univers des bergers, et paradoxalement, il va le disqualifier par un geste qui est contraire à ce qui devrait se passer dans la société humaine normale.
C'est-à-dire que tout comme il le fera ensuite en sautant par-dessus les limites,
il a
franchi d'autres limites plus intangibles et matérielles, mais beaucoup plus, beaucoup plus graves,
beaucoup plus graves
comme acte, et qui le mettent définitivement au banc justement de la cité et du côté de la sauvagerie.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, c'est ce que vous nous exposez dans l'ouvrage, mais pour expliquer le sens profond de tout cela, vous utilisez donc la méthode comparative qui consiste à comparer ce texte à d'autres venant d'autres aires culturelles, certes indo-européennes, mais d'autres aires culturelles, puisque en l'occurrence, vous avez beaucoup travaillé sur des mythes indiens d'une part, ce qui est naturel quand il s'agit des indo-européens, mais aussi indo-iraniens, avec un personnage qui présente, enfin des personnages, parce que c'est là aussi de jumeaux, beaucoup de correspondances avec Romulus et Rémus. Pouvez-vous nous présenter cette légende ou ce mythe ?
Alors, justement, j'ai raconté l'histoire, le sens qu'on peut lui donner. Bon, bien sûr, les Romains étaient incapables de le comprendre. Et ils ne comprenaient pas le sens de ce geste fratricide, qui est simplement, au fond, la constatation que Rémus s'est rendu impropre à une vie dans le monde civilisé. Et à partir du moment où Rome va être créée ou une ville va être créée, ben, bien sûr, il ne peut pas franchir le Pomerium, il ne peut pas s'intégrer dans cette cité.
Oui, on ne crée pas une civilisation en s'ancrant dans la sauvagerie.
Alors, au fond, l'utilisation du thème des jumeaux, ici, est quelque chose de tout à fait particulier, parce qu'on voit très bien qu'une différenciation s'opère entre les jumeaux. Il va y avoir le jumeau qui va fonder la ville, qui va devenir le roi de la ville qu'il a fondée, qui va, au fond, poser les bases d'une vie civilisée et de la civilisation du monde romain. Et au contraire, l'autre en est resté à un stade primitif, un stade sauvage, et donc s'est montré incapable de passer à autre chose. Alors, justement, là, la méthode comparative, à mon avis, est intéressante. Au fond, la question est de savoir si on n'a pas d'autres exemples de jumeaux où l'utilisation du thème gémellaire aurait fonctionné de cette manière-là, c'est-à-dire avec un frère plus sauvage et un frère plus civilisé, le beau rôle étant donné, bien sûr, au frère civilisé. Alors, je pense que oui. Et j'ai été chercher, justement, pas dans le monde indo-européen, il y a une histoire qui ressemble tout à fait à ça, ben, et qu'on a dans la Bible. C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Alors, il faut peut-être que je précise aussi quelque chose là aussi, qui n'apparaît pas nettement dans la légende romaine, mais que depuis un certain temps, les spécialistes sont arrivés à dégager clairement, qui est que les jumeaux naissent en même temps, bien sûr. Mais n'empêche, pour la raison physiologique, oui, sort le premier. Et c'est généralement celui qui sort le premier, qui est considéré comme l'aîné par rapport à son frère. Bon, il peut y avoir des conceptions différentes, mais en général, c'est ça. Et dans le cas de la légende romaine, bizarrement, ça n'est pas Romulus qui est l'aîné des deux frères, mais c'est Rémus. Alors on le sait en particulier parce que des érudits romains nous rappellent que le nom primitif de Romulus aurait été, non pas Romulus, comme je l'ai dit, ça veut dire le romain, mais aurait été Altellus, qui est le petit deuxième, le petit second. Ce qui veut dire que Rémus aurait été son aîné. D'ailleurs, un auteur byzantin, Jean Lydien, le savait encore. Alors, si on pense à la légende de Jacob et Ésaü, c'est vraiment l'essentiel de la distinction entre les deux frères.
Il faut la préciser, parce que même pour ceux qui ont une connaissance approfondie de l'Ancien Testament, c'est généralement une version édulcorée de Jacob et Ésaü qui est présentée. Oui. Vous référez à une version qui est un petit peu plus violente.
Oui, alors, on peut dire l'histoire de Jacob et Ésaü. Bon, les deux frères se chamaillent dès le sein de leur mère. Ésaü sort le premier et l'aîné, mais Jacob lui tient déjà son talon, donc veut le supplanter. Et justement, on va retrouver, y compris d'ailleurs dans le récit biblique, des éléments de récit qui sont un peu analogues à ce qu'on a dans la légende romaine. C'est-à-dire que dans la légende romaine, on a vu que Rémus, au moment de leur vie commune sauvage, se disqualifie par un geste alimentaire. Alors, dans le cas de Jacob et Ésaü, c'est la même chose, c'est la fameuse histoire du plat de lentilles. Alors, je précise aussi que les choses sont un peu différentes, parce que le type de vie de Jacob et d'Ésaü est différencié, ce qui n'est pas le cas, au moins dans leur période de berger, pour les jumeaux romains. Mais on peut dire que, comme Rémus, bien évidemment, et c'est beaucoup plus net dans le récit biblique, c'est Ésaü qui est marqué du côté de la sauvagerie. Et il en reste un mode d'humanité, disons, primitif. Si j'utilise des termes, disons, de la science moderne, on peut dire qu'il en est resté au paléolithique, au stade des chasseurs. Et on voit très bien que, au fond, ça ne marche plus. Parce que l'histoire du plat de Nantes, il revient complètement affamé. Et son frère, qui est déjà passé un autre type de vie, il reste sous les tentes, donc il y a l'élevage, il y a, avec les lentilles, il y a un certain type de culture, mais c'est lui qui l'emporte. Donc vous avez cette disqualification, perte du droit d'aînesse, bon, ça n'est pas expliqué et exprimé de la même manière dans le récit romain, c'est la même histoire, et ensuite, ça va prendre corps au moment, justement, de confrontation des deux frères. Alors, dans le récit romain, on a vu, c'est la pression suisse. Dans le récit biblique, c'est la bénédiction paternelle. Cette bénédiction paternelle que le Jacob arrive à supplanter. Et lorsque ça lui arrive, il a perdu. Alors, là où vous faites allusion au fait que le récit biblique a édulcoré l'histoire, il faut bien savoir que nous connaissons l'histoire telle que le raconte la Bible. Jacob s'enfuit, va se marier, etc. Mais il y aura un retour dans son pays natal, il va rencontrer son frère et il y aura la réconciliation des deux frères, donc une sorte de happy end. Mais vous avez des récits extra-bibliques, les testaments des 12 patriarches, le livre des jubilés, où les choses ne se passent pas du tout comme ça. Et on va avoir une fin de récit exactement semblable à ce qu'on a dans le récit romain, où, en fait, il va y avoir une querelle violente entre les deux frères et où Ésaü va être tué par Jacob. Alors, bien sûr, la Bible n'en parle pas, puis je ne veux pas me lancer dans une datation relative des récits, mais il est clair qu'on a le même type d'histoire. Ésaü est l'aîné comme l'Érémus par rapport à Rubus, et on est resté, on peut dire, un stade primitif, un stade sauvage, exactement comme Rémus par rapport à Romulus. Celui qui l'emporte au moment de l'acte important, qui va être la naissance de Rome pour Romulus et Rémus, et la naissance d'Israël pour les jumeaux bibliques, à ce moment-là, différenciation entre les deux, le frère aîné se trouve éliminé, et au moins dans cette tradition post-biblique, exactement comme ça se passe à Rome, les choses se finissent mal parce que Ésaü est tué par Jacob.
Et avec les mêmes tentatives que dans les récits romains d'édulcorer la chose par la suite dans les textes qu'on transmet. Alors, si l'on résume les traits communs et la thèse qui est centrale dans votre ouvrage, si je ne me trompe pas, cela signifie donc que loin de représenter des meurtres de type sacrificiel, ces deux fratricides signent une entrée dans la civilisation elle-même et signifient que désormais il y a des limites. Ceux qui sont mis à mort sont ceux qui refusent les limites.
Oui, tout à fait. Alors, vous faites allusion, effectivement, là je pourrais peut-être le préciser, parce que quelquefois, on interprétait le meurtre de Rémus de cette manière-là, comme une sorte de sacrifice de fondation, d'offrande. Et bien sûr, on peut concevoir qu'au moment de fonder la ville, au moment même d'édifier une muraille, il y ait un sacrifice humain. Peut-être, est-ce qu'il y a une réalité historique de ce genre-là ? Je ne crois pas qu'on puisse vraiment l'affirmer. Je ne veux pas non plus me lancer dans des discussions purement archéologiques. Mais au niveau de la légende, il est clair que ça n'est pas un acte religieux. Ça n'est pas une offrande qui est faite à une divinité quelle qu'elle soit. C'est simplement, comme vous le dites, la constatation qu'une limite a été posée et maintenant celui qui l'a franchit devient sacer, sacré. Et on sait bien que sacré, c'est un terme très ambigu en latin et que, par exemple, le parricide, sinon le fratricide, était déclaré sacré, ce qui voulait dire qu'on devait le mettre à mort.
Et le sacré repose lui-même sur la limite et la définition de limite avec le profane.
Oui, tout à fait, oui.
Quel est le rôle dans le cheminement de vos recherches alors de cette mythologie indienne et ensuite indo-iranienne? Quelle est la part qu'elle tient dans les conclusions que vous tirez de l'interprétation de la légende romaine?
Alors effectivement, pour l'instant, j'ai parlé en matière de comparaison avec ces histoires de Jacob et Ésaü, mais qui justement n'est pas un européen. Je veux dire que Messine, par exemple, ne s'autorisait pas à les regarder de ce côté-là. En fait, si on en reste dans le domaine indo-européen, alors ça devient un peu un autre type de questionnement. Romulus peut être approché de figures indiennes, ou plus exactement indo-iraniennes, puisque, et alors je vais plutôt me centrer sur la légende iranienne, vous avez une figure de premier roi qui était à l'origine de l'histoire de l'Iran, mais l'Iran se conçoit comme une sorte de...
Un monde en soi,
De monde en soi. Et leur premier roi s'appelait Yima. Yima veut dire le jumeau. Alors, là encore, les choses sont un peu complexes. Étant donné qu'il était jumeau, non pas par rapport à un frère comme Rémus, mais par rapport à une sœur. Vous aviez un couple homme-femme, un couple, disons, couple primordial, style Adam et Ève, et la gémilité jouait par rapport à ça. Il n'empêche que, si on regarde la légende de Yima, on s'aperçoit dans le détail qu'il y a toutes sortes d'éléments qui permettent de rapprocher sa légende de celle de Romulus. Le problème est qu'on ne connaît pas très bien. Et en réalité, ça concerne presque plus la suite de l'histoire, le moment où Romulus sera roi de Rome, et où au fond, on racontait de Yima des éléments de légende, des suites d'épisodes qui ont tout à fait leur parallèle dans la légende romaine.
Mais vous en parlez parce que votre ouvrage est titré « Romulus, jumeaux et rois », on s'est un peu...
Oui, alors on a parlé des jumeaux.
Maintenant, il faut parler de l'aspect royal, puisqu'après tout, c'est la fin de l'histoire, mais c'est aussi son couronnement, son jeu de mots. Tout prend son sens par le fait qu'il y a quelque chose de nouveau, de fondé.
Oui, alors à ce moment-là, il devient roi, et c'est le début de l'histoire de Rome. Donc, il y a toutes sortes d'épisodes, et comme je le disais, qui peuvent être mis en rapport souvent assez précis avec ce qu'on connaît de la légende de ce premier roi iranien. Par exemple, le premier roi iranien, Yima, doit peupler, pour lui, il s'agit du peuplement de la terre, mais Romulus, ce sera la même chose. Il a fondé la ville de Rome, mais il s'agit de la peupler. Donc, il y a cette légende un peu étrange de l'asylum, de l'asile, du dieu d'asile, où il accueille tous les réfugiés qui veulent y prendre place.
Et donc, ce sont tous des hommes.
Oui, alors justement, le problème est celui-là, qui est qu'au départ, Rome n'accueille que des êtres de sexe masculin.
Donc, pour fonder une dynastie, ce n'est pas la meilleure solution.
Oui, puis même pour que Rome continue. Et Tite-Live et les autres nous disent que le problème est que Rome existait, était puissante, mais n'allait durer qu'une seule génération. Donc, les Romains étaient peut-être assez misogynes, mais ils étaient obligés de reconnaître que les femmes étaient absolument indispensables, donc besoin d'avoir des épouses. Donc ça va être l'enlèvement des Sabines, et donc le peuplement de Rome assuré d'une manière durable, puisqu'il va y avoir des mariages, ils auront des enfants, etc. Donc l'avenir de Rome est assuré. Alors, si je mets ça en parallèle avec la légende de Yima, vous avez aussi des éléments du même ordre. C'est-à-dire au début, Yima commence à peupler la terre et bon, les textes qui nous en parlent ne parlent pas tellement du problème, de deux générations et de ce qui se passe devant la mort. Et il va y avoir, alors c'est de la mythologie iranienne, c'est assez différent, si on veut, le surgissement d'un grand hiver, c'est-à-dire un moment où tout risque d'être détruit et où cette humanité risque de disparaître. Alors, Yima va créer ce qu'on appelle le Wara, donc une sorte de palais souterrain. Je ne veux pas entrer dans les détails qui sont assez compliqués, mais on peut considérer que la même question va être posée à Romulus, c'est-à-dire de la survie de Rome par-delà la première génération, et donc la nécessité d'avoir des femmes et d'assurer le renouvellement des générations. Et dans la légende iranienne, pour Yima, avec le Wara, c'est un peu la même chose. Parce que l'humanité risque de disparaître, donc on va créer cette humanité dans ce lieu particulier, si on veut. Et il est bien précisé que là, il va y avoir des hommes, des femmes qui vont se renouveler, etc. Autrement dit, on passe à l'idée que devant la mort, bon, l'homme qui n'est pas immortel ou qui n'est plus immortel, le moyen de survivre, ça n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau du groupe, et ça passe par l'organisation du système des générations, les mariages. Et c'est un peu cela que sans doute la tradition pour, sur le Wara iranien devait exprimer, et en tout cas, assez clairement, c'est ce qu'on a pour la tradition romaine sur Romulus, l'enlèvement des Sabines, etc.
C'est que dans un cas comme dans l'autre, nous rentrons dans la civilisation, dans un monde de règles, dans un monde de limites, dans un monde dans lequel il faut s'auto-limiter aussi, et que donc dans cette mythologie romaine et le meurtre n'est pas un dernier vestige de sauvagerie avant de rentrer dans la civilisation, mais justement l'acte fondateur où l'on pose que désormais il y a des règles. Quelle est, à votre avis, la postérité de ce type de compréhension? Moi, en fait, ça m'a étonné que ça n'ait pas été perçu initialement par les Romains, quand on connaît l'importance justement de la maîtrise de soi et du refus de l'hubris, c'est peut-être plus vrai des Grecs que des Romains, dans la mentalité antique.
Oui, je crois que pour eux, le fratricide était nécessairement quelque chose d'horrible. Ils ne pouvaient pas comprendre que dans ce cas précis, ça pouvait avoir un sens positif. Alors, ce qui a sans doute aussi joué, c'est que les ennemis de Rome, évidemment, se sont jetés sur cette histoire-là pour dire « Ah, regardez les Romains, c'est des infâmes, leur fondateur était un bonhomme absolument horrible, il avait été jusqu'à tuer son frère, etc. » Donc, ils avaient peut-être du mal à prendre du recul. Puis alors, ils s'en sont tirés en imaginant des histoires quelquefois complètement abracadabrantes. Alors même,
c'est un autre qui l'a tué.
Oui. Alors c'est ça. Alors ils vont chercher un meurtrier. Alors ils ont créé un personnage qu'on appelait Keller. Keller, ça voulait dire le rapide. C'était le nom des gardes du corps de Romulus. Et c'est Keller qui aurait tué Rémus. Et alors, plusieurs auteurs en parlent, justement, Ovide, auquel je fais allusion. Et, disons, la version la plus habituelle de cette histoire-là, Keller aurait été préposé par Romulus à la garde de son pomerium, de la muraille à peine naissante de Rome, et il voit dans la nuit surgir un individu, évidemment, ça peut sembler suspect, et sans réfléchir, il le tue. Alors évidemment, Romulus est averti, puis Romulus arrive, il est désolé, il dit « Ah, mon pauvre frère !» Et il va lui faire des cérémonies funéraires, mais
Où l'on voit que la façon d'édulcorer le mythe lui enlève tout son sel et tout son sens.
Tout à fait.
Alors justement, nous pouvons inviter nos auditeurs qui voudraient en percevoir toute la profondeur, la richesse, de se reporter à votre ouvrage, car nous n'avons fait qu'effleurer finalement le sujet. On en a donné la grande trame, mais l'ouvrage est bien sûr beaucoup plus riche, beaucoup plus argumenté aussi, l'ensemble des sources à disposition du lecteur. Et j'en redonne donc les références, si vous le voulez bien. Romulus, jumeau et roi, ce sera l'occasion d'ailleurs pour les lecteurs de mieux comprendre en quoi la partie roi est tout aussi importante que la partie jumeau sur laquelle nous sommes un peu attardés. Donc Romulus, jumeau et roi, réalité d'une légende par Dominique Briquel, et c'est donc aux belles lettres dans la collection Realia. Merci beaucoup, monsieur.
Merci bien.